t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mboujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Radio Okapi et bienvenue dans cet échange citoyen. La session ordinaire du mois d'octobre au Conseil économique et social de la RDC s'est ouverte le 6 octobre dernier à Kinshasa. Dans son discours d'ouverture, Monsieur Kiwa Kana, président du Conseil, a interpellé le gouvernement congolais face à la dégradation avancée de la situation sociale des Congolais. L'on devait, a-t-il estimé, réformer le secteur agricole comme prioritaire sur les autres et travailler pour la création de la classe moyenne congolaise. Qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiokapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 49 69 ou bien au 09 97 06 63 30 pour votre intervention en direct. Notez que notre page Facebook est également ouverte pour ces débats. Jean-Noël Mokondo est à la mise en onde de cette émission produite par Pierre Lamegi et Nico Kalambay sous la supervision de Martin Sebujangwe. Ce programme est coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Degei Faso, vous êtes en Bandaka, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tout le monde, c'est Degei Faso de Bandaka.
Quel est votre avis?
Oui, l'interpellation, moi j'appelle cette interpellation du président du Conseil économique, elle est salutaire. Mais le problème qu'il doit savoir, c'est que l'économie de la RDC n'est pas seulement basée à l'agriculture. L'économie de la RDC est basée dans nos ressources, et surtout potentielles, pétrolières, et c'est ça. La relance agricole peut trouver des pistes, quelques pistes de solutions dans l'économie du pays. Mais le vrai problème qui est maintenant là, ce n'est pas la relance agricole ici. Même lorsque l'économie était un peu bonne, on a vu le parcours agro-industriel de Bukangalonzo qui n'a pas parvenu à résoudre les problèmes du Congolais. Maintenant, le grand problème pour que l'économie de la RDC soit stable, sauf que le grand problème, c'est le renouvellement de la classe politique. Lorsque nous avons une classe politique qui est capable de valoriser nos ressources, c'est pour ça qu'on doit savoir que nous avons tout. Mais quand on a tout, ce n'est pas nous qui allons chercher les preneurs, ce sont les preneurs qui doivent nous suivre, c'est la RDC lui-même qui doit fixer le prix. Lorsque les preneurs commencent à fixer le prix, etc., vous voyez que c'est là où ça pose un peu un problème. L'autre problème, c'est que les monnaies nationales a pris le dessus du monnaie congolais. Et c'est là où ça pose un grand problème, l'inflation. Nous ne savons pas capitaliser nos moyens. Nous ne savons pas valoriser nos ressources. Nous ne savons pas valoriser notre monnaie. Et c'est là où ça pose un grand problème. Pour le social, moi je pense que sa proposition ou son interpellation, c'est un traitement symptomatique, ce n'est pas un traitement de la bonne prise en charge. Lorsque nous aurons une classe politique qui saura répondre aux aspirations de tous, lorsque nous aurons une classe politique qui sait bien capitaliser, qui sait bien valoriser les ressources de notre pays, qui sait mettre notre monnaie nationale à sa valeur, c'est là où les problèmes économiques, c'est là où on va stabiliser notre économie et c'est là où tous les problèmes de social des Congolais seront réglés. Tout ce que la population congolaise attend, tout ce que la communauté internationale attend de nous, c'est le renouvellement de la classe politique. Vous voyez que maintenant même les investisseurs ont très mal devenu s'investir dans notre pays, puisqu'ils ont peur. Nous sommes dans l'insécurité, nous vivons l'insécurité. L'insécurité de toutes sortes et ils ont peur de venir s'investir puisque leur investissement est d'aller en vue. C'est tout ce qu'on voulait contribuer pour aujourd'hui, JR.
Merci beaucoup, Ifaso. Pour vous, vous estimez que il s'agit là d'une interpellation à l'endroit du gouvernement, qui est du reste très très salutaire. Mais vous décriez le fait que les problèmes n'ont pas été pris dans son ensemble, raison pour laquelle vous craignez que le résultat ne soit pas celui qu'on attend, que tout le monde attend. De fait que les traitements que aujourd'hui les conseils socio-économiques préconisent ne puissent être que des traitements symptomatiques, c'est-à-dire une thérapie qui ne sera que superficielle, qui ne touchera pas du fond du problème. C'est vrai, avec l'expérience de Bukang Alonso, on est arrivé à la conclusion que ce n'est pas la priorité de priorité, ou peut-être la question a été mal prise. Merci beaucoup, Ifaso, d'avoir appelé de Mbandaka. Amos, vous êtes à Bukavu, bonjour et bienvenue.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix. Par rapport au sujet au studio, il fallait toute initiative que le président du conseil a prise. Mais nous nous disons, en fait, avec quelle volonté politique? Parce qu'il peut juste prendre cette initiative, mais si du moins nos autorités ne prennent pas cette initiative comme étant une priorité, ça sera juste une simple distraction, comme on l'a toujours vécu. Tout le monde qui suit la radio au café à l'air, qui le sait que la RDC a des terres arables, et qui peuvent, une fois ces terres valablement utilisées, ces terres peuvent elles-mêmes nourrir toute l'Afrique. Mais nous qui sommes Congolais, nous n'avons pas à manger. Vous allez vous souvenir qu'il y a un moment donné où nous avons vu notre gouvernement commander des tracteurs. Et ces tracteurs ont eu à consommer beaucoup de moyens pour la République. Mais est-ce que ces tracteurs ont été utilisés pour le travail pour lequel ils ont été commandés? Non. Parce que aujourd'hui, si vous arrivez, que ce soit dans la plaine de la Ruzizi, que ce soit à Bukavu, que ce soit dans nos territoires et partout ailleurs, ce tracteur commence à transporter des fagots et d'autres trains partout. On ne sait plus si du moins il y avait une politique avant de commander ce tracteur. C'est de la honte d'hier. Et à part ça, vous allez constater que aujourd'hui, la province du Sud, si vous ne pouvez pas parler de la ville de Bukavu, nous vivons en tout du Rwanda. Tout ce que nous utilisons aujourd'hui provient du Rwanda. Que ce soit la tomate, que ce soit même le légume, tout ce que nous utilisons à Bukavu, nous trouvons ça au Rwanda. Et finalement, on va se poser la question. Est-ce que c'est au Rwanda où il y a une terre fertile par rapport à la RDC? La réponse dit non. Ça prouve à ce que nous avons des autorités qui n'ont pas de volonté pour voir la population congolaise vivre dans de très belles conditions.
Oui, quand nous lisons, c'est vrai, au fait, l'interpellation, comme l'a dit d'ailleurs Ifaso, vous l'avez également soutenu, et ça nous renvoie à cet objectif poursuivi par tout le monde et surtout par les différents gouvernements qui se sont succédés, la lutte contre la pauvreté, c'est-à-dire amener les gens à sortir de la pauvreté, à avoir quelque chose à manger. Et le président de ce conseil estime que tout passera par la réforme de fond à comble du secteur agricole. Vous l'avez dit, c'est vrai, mais on sait que nous avons eu des éléments ou des documents de base depuis il y a une décennie aujourd'hui. On a travaillé avec un tableau de bord, les DCRP 1 et DCRP 2, entendez par là les documents stratégiques pour la réduction de la pauvreté. Et il y a également ces documents qui a servi aussi des tableaux de bord, le PEG, le programme élargi du gouvernement, mais des documents très bien fignolés. Mais le résultat n'a toujours pas été celui escompté. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que même si on s'engageait sur cette voie-là des réformes, c'est vrai, il faut vraiment tenir compte de tous ces documents qui ont été déjà élaborés en amont, au lieu de multiplier ou de diversifier des activités avec d'autres programmes nouveaux?
Je ne veux pas parler de la volonté politique. J'ai toujours dit que la RDC ne fait pas la honte du monde dans tous les domaines par manque de bons textes. Non, la RDC fait la honte dans tous les domaines au niveau international par manque de dirigeants responsables et par manque de dirigeants souciés. de voir les conditions de la population être améliorées. Malheureusement, nous avons des très beaux textes dans tous les domaines. Heureusement, vous venez de parler de différents documents qui ont été élaborés dans ce sens-là. Mais quel est le résultat sur le terrain?
Mais Amos,
voilà pourquoi moi j'ai dit.
Amos, oui, mais de l'autre côté, oui, également, s'il faudrait quand même faire quelques critiques par rapport à cette interpellation, les conseils économiques qui a été institué pour une mission très bien précise, afin d'apporter des avis consultatifs auprès du chef de l'État ou encore prendre des propositions de l'Assemblée nationale, afin de bien surveiller au fait les contextes socio-économiques du pays. Mais aujourd'hui, c'est vrai, on a l'impression qu'après avoir subi la pression économique, la pression financière, c'est à ce moment-là que le Conseil ouvre cette session avec cette interpellation.
Même avec cette session qui a été ouverte, ça ne produira pas de résultats que le peuple attend. Parce que le problème, ce ne sont pas les textes. Le problème, ce n'est pas le fait de s'être réunis quelque part. Le problème, c'est est-ce que les gens qui nous gouvernent ont d'abord cette volonté de voir les choses changer? La réponse dit non. La réponse dit non hier. C'est pourquoi nous sommes en train de militer pour qu'on ait au pays du sommet à la base, comme dirigeant, des gens souciés du peuple congolais. Et non des aventuriers qui nous gouvernent à mercenaires. Parce que moi, je pense bien que, même si du moins notre monnaie est en train de connaître des problèmes sérieux, si du moins nos autorités avaient investi dans l'agriculture, la RDC serait une puissance mondiale pour ne pas parler d'une puissance africaine. Malheureusement, nous avons des aventuriers qui nous gouvernent, qui ne visent que piller les ressources du pays, à s'intéresser à des minéraux et des taxes ignorantes et non le grand secteur qui devait permettre à la RDC de devenir un grand pays, c'est l'agriculture malheureusement. C'est pourquoi nous nous disons que avec ce texte, avec ce qu'on peut organiser comme colloque et autres, c'est une simple distraction. C'est là que la grande question qu'on se pose souvent hier. Qu'est-ce que le pouvoir a fait de ce monsieur-là qui avait convoqué, qui avait importé ce tracteur et voyant comment ce tracteur traîne partout au lieu que ce tracteur fasse le travail qui était le leur? C'est là que nous disons que ce sont ces mêmes gens qui ont eu à détourner le pays malignement qui sont devenus aujourd'hui les enfants chers du pouvoir en place, parce que c'est un pouvoir qui favorise le détournement, qui favorise le
climat. Merci beaucoup. Merci.
Je pense bien que avec ces raisons,
voilà, merci beaucoup, Amos. Je crois qu'on va. Merci beaucoup, Amos. Alors, on va quand même rappeler à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre que nous parlons du Conseil économique et social de la RDC et qui a ouvert la session ordinaire du mois d'octobre en interpellant le gouvernement face à la dégradation avancée de la situation sociale des Congolais. C'est un avis, et c'est vrai, tel que la mission qui a été assignée à ces conseils constitutionnellement dans son article 208, donc l'article 208 de la Constitution, qui dit qu'on a institué en République démocratique du Congo un conseil économique, et en son article 209, il est clairement dit ses missions, notamment la mission de donner des avis consultatifs sur les questions économiques et sociales lui soumises, soit par le président de la République, soit par l'Assemblée nationale, le Sénat ou encore les gouvernements. Mais le conseil peut aussi, de sa propre initiative, appeler l'attention du gouvernement et des provinces sur les réformes qui lui paraissent de nature à favoriser le développement économique et social du pays. Voilà, nous faisons des analyses sur cette interpellation qui renvoie à la réforme du secteur agricole qui devait être selon les conseils prioritaires. Gaston, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue.
Bonjour J.F.
Quel est votre avis par rapport à ces débats?
Oui, mon avis est simple. Moi, je crois que j'ai résumé la situation en 6 points. Le premier point, comme l'a dit le prédécesseur, c'est qu'il y a d'abord un problème de gouvernance dans le pays. Les gouvernants qui sont les nôtres, je pense, je peux me tromper, ils ne sont pas à leur place. Et le deuxième point, c'est que pourquoi on a focalisé le développement de notre pays sur presque un seul facteur ou deux? Moi, je pense que si on devait prendre le secteur de la forêt, avoir l'agriculture et les bois, avec ça, nous pouvons déjà avoir un développement escompté pour ce pays, à part le secteur d'agriculture. Le troisième point, je vois le secteur minier. Je vous ai dit que moi, j'ai fait tour il y a moins d'une année vers Kasumbalé, ça là-bas. Mais j'ai compté plus de 500 véhicules qui transportaient le cuivre au niveau de la frontière Kasumbalé vers la Zambie. Et tous ces véhicules
on écrivait Akuna Matata Abarikani Mzuri Sam. Et j'ai posé la question au niveau de la frontière. Où va tout ce cuivre ici? Le cuivre, je ne dis pas que ça m'a été raconté. Moi, je l'ai vu moi-même. Et quand je vois la route de Kasumbalesa, les petits villages qui sont construits, des maisons, je me pose la question, ce cuivre va où? C'est un secteur qui devait être canalisé aussi pour le bien de la nation. Et je pense que c'est le secteur qui est de moins en moins réputé dans notre pays. Le secteur de la pêche. Nous avons des poissons dans notre pays. Gestionner quelques provinces de notre pays où je vois qu'il y a la pêche. Pourquoi ne pas penser à la pêche industrialisée avec des bateaux? Comme ça, on fait une pêche et que le Congo peut commencer à vendre aussi les poissons à travers l'Afrique. Ça peut changer la situation sociale des habitants. Mais il y a aussi un problème, ça c'est le cinquième point, c'est que je pense que dans notre pays, il y a aussi le problème de loi. Nos lois ne facilitent pas le développement de notre pays. Nous avons trop de lois et qu'il faut appeler à beaucoup de taxes et beaucoup d'impôts, comme on dit dans le coup de management, trop d'impôts, trop de l'impôt. C'est que nous devons chercher aussi à éliminer certaines lois qui ne valent presque rien, qui ne s'appliquent pas. Et le troisième point qui résume le tout, c'est que notre pays a un sérieux problème. Le peuple n'a plus confiance à ceux qui le gouvernent. Nous ne pouvons pas tourner la langue. Le peuple n'a plus confiance. Quel que soit le projet qu'on peut entreprendre dans ce pays, si vous n'avez pas la confiance du peuple, monsieur Thiers, il faut un miracle pour que ça aboutisse. En fait, le conseil, comme le conseil économique, comme est en pleine consultation, il doit tenir compte de ce point-là. Que comment faire pour que le peuple ait confiance encore de ceux qui le dirigent? Comme ça, quand il y a une mesure qui est prise, le peuple appréhende cette mesure-là et cette mesure est voie à la réussite. Parce que quand le peuple insiste du jour au lendemain à des impunités, nous n'avons jamais pris un ministre ou un DG qui a été arrêté. Mais on nous parle de corruption, on nous parle de croulement des recettes.
Oui, Gaston, oui, Gaston, quand le président du Conseil économique et social évoque au fait comme constat la dégradation avancée de la situation sociale des Congolais, mais de l'autre côté, on sait que la situation ne pourrait pas changer par un coup de bâton magique et que s'il faut des réformes, c'est des réformes à court terme, même à moyen ou à long terme, pour arriver finalement à changer la situation. Donc, je crois que c'est vrai, l'agriculture peut être prioritaire, mais on ne peut pas l'espérer à moyen ou à court terme.
Bon, peut-être que vous pouvez avoir la chance d'avoir le président du Conseil économique sur le plateau. Il voudrait que les problèmes ne se posent pas au niveau des lois. Toutes ces réformes, ce sont des réformes de trop. Les lois que nous avons suffisent, M. Gilles, pour que les choses marchent. Il y a un problème d'application. Les lois ne sont pas appliquées dans notre pays, dans tous les secteurs. Les lois ne sont pas appliquées. Je ne parle pas seulement le secteur d'agriculture, je cite beaucoup de secteurs. Toutes ces lois qui existent, elles sont suffisantes pour que le pays démarre. Mais les lois ne s'appliquent pas. Les réformes de plus, c'est à la fois des moyens qu'il faut chercher à mettre en place. Mais il y a aussi un problème dans notre pays que j'allais oublier, c'est que la monnaie de notre pays a un problème. Je ne sais pas pourquoi nous devons avoir des monnaies qui circulent dans notre pays. J'étais au Rwanda, avec 5 dollars en poche, j'ai toujours dit, je voulais acheter des billets dans un petit marché. Mais cette maman a refusé de prendre 5 dollars et elle m'a renvoyé dans un comptoir public où on change dans le bureau de change publique, où on doit d'abord changer le dollar et prendre les mafaranga pour venir acheter. J'ai été en Zambie, avec les Kwata, ils ne prennent pas la monnaie. Pourquoi nous devons avoir des monnaies et que nous avons les dollars ici, même les fonds, on fait ça avec les dollars? Ça, ça ne peut pas faire avancer les choses. Même les maîtres et les vous avez dit dollars, vous donnez, on vous remet. La monnaie forte chasse la monnaie faible. Le dollar ne peut pas se comparer au franc congolais. Donc, il faudra qu'on accepte quand même que le dollar existe, mais que si le marché, qu'on ne prenne que le franc congolais. Même à Brazzaville ici. J'ai voulu dormir en famille à Brazzaville, alors que j'avais 100 dollars en poche dans un restaurant. On ne prend pas. On me demande de changer et ils ne prennent que le franc CFA. Ça, c'est clair aussi que les gens négligent, mais qui est très important. Et au-delà de tout, M. JR, si les réformes tiennent, les dirigeants doivent penser à l'équilibre, comme la Constitution le dit. Il faut qu'il y ait l'équilibre dans le partage des ressources humaines. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Les salaires, il y a un grand écart dans les salaires des Congolais. Quand vous prenez le salaire d'un ministre, qui généralement sont des licenciés comme nous tous, mais vous prenez le salaire d'un ingénieur, mais c'est des ministres divisés par 1000. Ça ne va pas. C'est un déséquilibre qui ne peut pas faire avancer les choses. Il y a un climat de méfiance chez la population. Donc, il faut qu'il y ait aussi l'équilibre dans les salaires. Quand vous prenez un fonctionnaire, il doit avoir 100 000 francs, et qu'un député reçoit 8 000 dollars,
Vous voyez cette église.
Voilà, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Gaston. Alors, on va prendre Sylvain. Je crois qu'il y avait tous les espoirs dans les chefs d'État, tous les Congolais, hein, et surtout lorsque cet article 208 de la Constitution a été appliqué en instituant en République démocratique du Congo un conseil économique et social. Tout le monde pensait que, c'est vrai, il y aura abondamment des avis consultatifs sur la situation sociale, socio-économique du pays. Mais là, on se rend compte que tout tombe vraiment à compte-gouttes et ça a l'air d'être un peu loin de la réalité que nous présente la situation socio-économique. Sylvain, est-ce que vous partagez cet avis évoqué par certains internautes sur notre page Facebook? Et quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
En fait, je remercie d'abord le point de vue du dernier auditeur. Et monsieur le journaliste, permettez que nous puissions relancer tout petit peu le débat tout en le cadrant correctement. Puisque vous parlez du conseil socio-économique institué par notre constitution, et bien évidemment, vous avez rappelé les articles 208 et 209 qui donnent les rôles qu'il doit jouer. Alors, il faudrait aussi dire, du point de vue juridico-constitutionnel, cette institution a été mise en place dans le seul souci de voir dans la gestion de la RDC une classe moyenne. Ça veut dire quoi? Vous devez vous souvenir du fait que notre pays venait de la guerre. Et lorsqu'on a doté la RDC d'une constitution, il fallait qu'on puisse déjà mettre en place une institution qui du moins reste constitutionnelle, pour assurer l'atteinte de cet objectif. Eh bien donc, vous avez vu, avec le pouvoir qui s'est installé après les élections de 2006, en tête le PPRD, en 2011 aussi, en tête le PPRD, qui, du moins, reste encore un parti social, pour ne pas dire social-démocrate, lorsque vous lisez les partis. Et donc, c'est cette politique-là qui devait être mise en place, afin de permettre qu'on atteigne l'objectif défini d'ailleurs dans notre constitution. Malheureusement, vous avez vous-même entendu certains auditeurs qui ont évoqué des grandes questions. Pour moi, le point de vue qui devait ressortir de toutes les rencontres du Conseil économique et social de notre pays devait d'abord voir si réellement les politiques publiques mises en place étaient en train d'être respectées. Ça, c'est de un. De deux, ils disent clairement. Là, je parle les membres du Conseil économique et social à témoin. Ils disent que la situation socio-économique des peuples congolais se dégrade davantage. Mais ils ne se posent pas la question quelles sont les vraies origines ou les vraies sources. Pour moi, cette recommandation anticipée qui se lance du côté de l'agriculture est effrayante. C'est une mauvaise façon de voir la chose. Mais c'est le journaliste, la bonne solution devait d'abord être basé sur une interrogation sur les attitudes et les comportements des acteurs clés de la mise en place de cette politique, qui est le pouvoir en place avec en tête le PPRD, je le dis bien. Parce qu'ici, nous sommes en train d'accomplir une mission constitutionnelle. Et donc, lorsque vous regardez tous les acteurs qui sont dans la vie clé de la nation congolaise, ce sont des gens qui sont issus d'un parti politique, disons des partis politiques, qui en réalité devaient mettre toutes les politiques en place, à commencer par le chef d'avenir, le chef de quartier, et je monte jusqu'au président de la République en passant par les gouverneurs. Mais malheureusement, cela ne se fait pas voir. Et aujourd'hui, si vous prenez les avis du Conseil socio-économique, avec ce qui se fait pratiquement par les gouvernants, comme venait de le dire le bien auditeur, il y a un grand écart. Et donc pour moi, la première solution que devait préconiser le Conseil socio-économique pour moi, c'est qu'il fallait réformer les attitudes, les comportements des acteurs clés de la vie politique de notre pays. Pourquoi? Chacun devrait se rendre compte de sa feuille de route. Est-ce que nous devons mettre en place une classe moyenne, comme le dit ou le stipule les résolutions du Conseil socio-économique? Ça, c'est des EBD. Ce n'est pas des répartitions des ressources nationales. Est-ce que nous sommes à même de dire que la façon dont nous les faisons est capable de garantir cette paix sociale et cette classe moyenne? J'ai dit non, comme l'a dit le dernier auditeur qui a intervenu avant moi. La troisième chose, la gestion des ressources financières, ou soit des finances publiques dans notre pays. Vous le savez bien, monsieur le journaliste, qui ne laissait pas les fraudes, les détournements, les évasions fiscales et les enrichissements illicites tout ce que nous avons développé depuis les années passées sur, sur notre chère radio, la radio Capi. Donc, ce qu'on appelle les dossiers Panama Papers, qui sont les premiers à investir là-bas, dans les comptes des paradis fiscaux, tout ça. Donc, on doit ramener ça dans les comportements de l'acteur politique principal, et je dis, à commencer par le président Kabila, le premier ministre, tous les ministres nationaux et provinciaux, donc chacun devrait s'adapter ou soit redimensionner ses activités dans l'objectif d'aller vers la définition ou l'obtention d'une place moyenne.
Oui, Sylvain, mais si on regarde la mission qui est assignée au Conseil économique et social, on se rend compte qu'aujourd'hui, bon, il y a, comme l'ont dit certains auditeurs, il y a manque de ces caractères répressifs. Il n'a pas ce pouvoir de répression, ce qui restreint au fait son action. Est-ce que vous êtes d'avis qu'il faut repenser au moins les objectifs de ces conseils?
Non, tout de suite je ne pense pas, puisque ça ramènerait à la question de la révision de notre constitution. Or, vous savez la situation dans laquelle notre pays se retrouve. Moi, le problème, c'est quoi? C'est que c'est une question aussi de volonté, et c'est une question d'aimer le pays, c'est une question d'aimer son concitoyen. Les problèmes chez nous, ce ne sont pas les textes, monsieur le journaliste. Je l'ai toujours dit. C'est que si nous comptions sur nos textes, alors le Congo devait être le premier pays dans ce monde. Mais le problème chez nous, c'est que l'homme lui-même, l'homme congolais lui-même dérape des normes que lui-même a mises en place. C'est ça le grand problème. Ce n'est pas une question...
Mais le président du conseil n'a fait que rappeler, en tout cas, la volonté de responsables, des autorités de ce pays, volonté inscrite dans les différents documents de développement, notamment les DSRP 1 et le DSRP 2, et ajouter à cela aussi les programmes élargis du gouvernement PEG, pour ne citer que cela.
Je suis d'accord avec vous. Et j'ajoute le troisième document, le plan national de développement de notre pays. Vous ne parlez pas seulement des PEG, des documents de
réduction
des pauvretés dans notre pays. Mm-hmm. Donc, prenons tous ces documents-là, monsieur le journaliste, et mettons ça par rapport à la pratique politique que nous avons dans ce pays. Et vous comprendrez clairement que ce ne sont pas des questions de texte, mais ce sont des questions seulement des comportements et de l'attitude de l'acteur politique de la RDC. Puisque si on pouvait penser à ce que ce sont des questions de texte qui bloquent le développement de notre pays ou même l'obtention d'une place moyenne dans ces pays, alors nous serons des malhonnêtes.
Voilà.
Dans un pays qui se respecte, monsieur le journaliste, je vais terminer peut-être par là, lorsqu'on a échoué dans sa mission, soi-même, la conscience condamne et on démissionne. Et je dis, dans le cas de notre pays, principalement, les sociaux-démocrates qui sont au pouvoir aujourd'hui devraient tout simplement dire au peuple congolais, pardon, nous avons échoué dans notre plan, il faut repasser notre politique.
Merci beaucoup, Sylvain. Pour vous, en tout cas, l'interpellation du président du Conseil économique et social n'est qu'un faux fuyant. C'est une fausse façon de voir les choses parce que les problèmes, il fallait que le soit évoqué dans tout son ensemble. Et que aujourd'hui, le vrai problème c'est, réside au niveau de l'attitude, des comportements des uns et des autres pour arriver finalement à faire appliquer les dispositions relatives au développement de notre pays. Merci beaucoup, Sylvain. On va prendre Marie-Paul qui est à Kisangani. Est-ce qu'il partage cet avis? Marie-Paul, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Faux fuyant, une fausse façon de voir les choses. Est-ce que vous partagez cela? Ou vous rejoignez certains de vos prédécesseurs également qui ont dit que c'est une interpellation qui vaut son pesant d'or?
Monsieur le journaliste, au stade actuel de la situation économique en RDC, point de besoin de rappeler l'inexistence du social associé des pouvoirs économiques lamentables des Congolais. Le ras-le-bol d'antan reste les dangers publics et mortels de la population de ces pays. Le fait que la classe politique et dirigeante n'en souffre pas à cause des pratiques antidémocratiques, de manque de gouvernance dans la gestion de la chose publique, justifie la légèreté et l'incapacité de ces dirigeants de faire de la RDC un État prospère, un État patron et un État de droit. Et au regard des ressources que cet État regorge, cela est vraiment quelque chose qui donne beaucoup d'interpellations quand rien de concret n'est au rendez-vous. Si nous allons dans l'hypothèse que le Conseil économique, social existe. Mais c'est un service de constat. C'est un service qui est juste des noms, en train de faire les constats sans une politique pour pouvoir ramener la population congolaise à avoir un social aussi respectable. C'est bien dommage. Et moi, je trouve que la solution, elle n'est pas dans les textes, et la solution n'est pas dans des spéculations, mais la solution, c'est de réinventer la machine économique congolaise qui est tombée en urbanisation, qui est tombée en profond sommeil. Ça fait longtemps que nous parlons du social, mais rien ne change. Nous allons de conciliambile à conciliambile, de congrès à congrès, mais rien ne change. Je crois qu'on doit réinventer cette machine-là, ne serait-ce que pour donner à la population congolaise un social qu'il faut. Mais nous allons faire quoi dans ces pays où on ne fait que des constats, on ne fait que des conseils, savoir réellement ce que nous cherchons. Je crois que nous sommes en train vraiment de quitter les santé pour aller dans les ridicules. C'est ce que moi je trouve. On doit mettre un accent sur l'invention économique. On doit inventer des choses pour que l'économie soit bien respectée, que les sociaux soient au rendez-vous comme les dit même les dispositions, les objectifs de ces conseils, bien entendu, monsieur le journaliste.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci de votre fidélité à Radio Capi. Composez également les 09 97 06 49 69 ou encore les 09 97 06 63 30 pour votre intervention en direct. Merci à Alain Bolodjoa qui pense que si la croissance économique peut se concevoir dans n'importe quel secteur, il est cependant impensable d'envisager le développement de la RD Congo sans l'agriculture. Mon séjour à Sochi en Russie m'a permis de renforcer cette thèse. Bien qu'il existe de pauvres en Russie, l'accès à une alimentation saine est garantie pour tous. Maître Gervais trouve que la vie sociale ou la protection sociale est devenue un fléau majeur en RDC à mettre hors d'état de nuire. Les conditions de vie des Congolais laissent à désirer. Où en sommes-nous avec le recrutement des 1000 jeunes universitaires dans la fonction publique? L'article 36 de la Constitution est remis en cause. Paulin Poutou se dit totalement d'accord avec le président du dit conseil. Les autorités de la RDC, dit-il, doivent savoir que l'agriculture est la base du développement économique de toute nation et il se demande pourquoi le secteur agricole congolais n'est pas pris en considération comme c'est le cas dans d'autres pays pour booster son économie. La RDC est incapable aujourd'hui d'exporter à une grande échelle ses produits agricoles parce que sa santé productive agricole est malsaine car ce pays a une terre très fertile. Ainsi, il est nécessaire de réformer ou moderniser ce secteur pour influencer positivement l'économie nationale à s'accroître et pour permettre aussi aux Congolais d'améliorer. Mais il reste à savoir, est-ce que ces avis seront pris en compte par les responsables de ces pays? Question mark. Voilà, merci beaucoup Paulin. Ingénieur Valérie, vous nous avez rejoint à ce niveau du débat. Vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Allô?
Ingénieur Valérie, vous êtes en direct.
Oui, bon, bonjour JR, bonjour à l'invité.
Alors, le temps que vous puissiez arrêter votre poste récepteur, on prend Maître Omar qui est à Kinshasa. Maître Omar, bonjour.
Bonjour JR Lungembo, merci de faire que vous m'adjugez.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Merci JR, le thème est intéressant, je vous en félicite. Comme vous l'avez vous-même dit, que le Conseil économique et social est une institution importante, ce qu'on appelle chez nous en droit administratif des autorités administratives indépendantes. Et telles institutions contribuent énormément à la démocratie d'un État. Je salue aussi leur déclaration, comme vous l'avez vous-même dit, qui est, n'est-ce pas, une interpellation au gouvernement qui dort aujourd'hui vis-à-vis, n'est-ce pas, de la misère sociale dans laquelle patauge le peuple congolais. Mais il faudra seulement s'inquiéter d'une chose très chère, de la faisabilité de ce que proposent les conseils. Premièrement, la première chose qui fait que nous puissions douter, c'est qu'il y a dans ces pays plusieurs initiatives pour lutter contre la pauvreté, et rapports internes qu'internationaux ont démontré que cela passerait par le rétablissement des secteurs agricoles. Mmh. Plusieurs projets ont été initiés, plusieurs propositions ont été faites, jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Pas de plus normal que continuer à douter. Deuxième chose était, et la plus importante que je voudrais dire, s'il faut, n'est-ce pas, analyser la nature juridique de ce qui prend comme acte le Conseil de sécurité, on l'appellerait des avis. Et en droit, on distingue trois sortes d'avis que donne un conseil économique. Il y a des avis facultatifs, il y a des avis conformes et des avis obligatoires. Et un avis facultatif, c'est un avis qu'on donne à une autorité qui gouverne ou qu'il est libre de ne pas ou de ne pas considérer. Un avis obligatoire, c'est un avis qu'on doit requérir, qu'on doit écouter, mais on n'est pas tenu de l'exécuter. Par contre, un avis conforme, c'est un avis qui est d'abord obligatoire et que celui vers qui il est destiné doit être exécuté. Mais par rapport au Conseil économique et social, je pense aux des simples avis obligatoires parce que le Conseil économique et social est un service expert du gouvernement qui propose des solutions pour le redressement économique de l'État. Son avis est certes obligatoire, mais n'est pas conforme. Donc l'État peut ou ne pas en tenir compte. C'est ça le faux problème que j'ai. Nous avons affaire à des gouvernements dans ces pays qui sont experts en des théories, en des lois que nous prenons, mais on ne sait pas les appliquer. Si déjà les lois qui ont une force contraignante ne sont pas appliquées dans ces pays, à plus forte raison, les simples avis des services experts de l'État, qui sont certes obligatoires, mais qui ne sont pas conformes. D'où là, nous interpellons, c'est la conscience de ceux qui nous gouvernent. C'est pour simplement dire, très cher J.R., et je l'ai dit, comme Michel Allotte le disait, la loi ou les avis ne sont pas ce qu'en disent les textes, mais ce qu'en font les acteurs. La dégradation sociale aujourd'hui a comme solution plusieurs paliers. Il faudra d'abord commencer par exécuter ce qui existe. Nous avons la loi sur l'environnement qui a été votée en 2011. Nous avons la loi sur l'eau, la loi sur l'électricité, la loi sur l'agriculture. Ces lois ont initié des projets énormes intéressants. Mais est-ce qu'on les a appliqués? Rien du tout. Deuxième chose, on peut donner des avis. On peut bien proposer des choses. Si les moyens pour les mettre en œuvre ne sont pas réunis, on ne peut rien faire. Si déjà organiser les élections, qui sont des éléments mineurs d'une démocratie, on n'arrive pas à le faire. Comment arriverons-nous à faire un secteur agricole qui demande beaucoup de moyens? Pour moi, la solution passerait d'abord par le respect des lois qui existent.
Oui, raison pour laquelle, Maître Omar, il y a tout à l'heure un de vos prédécesseurs qui parlait d'un fonds fouillant, une fausse façon de voir les choses, parce que si jamais même cette question a été prise à bras le corps maintenant, ça serait vraiment une tromperie à grande échelle, parce que la solution ne sera pas trouvée à court, encore moins à moyen terme. C'est au-delà de termes longs.
Exactement, très cher Julien. Donc, le problème se pose, il est réel. Alors, les déclarations telles qu'il faut qu'on prenne encore le secteur agricole sont les simples déclarations qu'on fait. Je l'ai toujours dit, je le répète, comme le disait Georges Pompidou, le mandat politique n'est pas un mandat d'explication ou de déclaration, c'est un mandat d'action. L'action passe pour ceux qui gèrent. Le Conseil a très bien agi. Son service, c'est de conseiller les gouvernements utilement, proposer des solutions appropriées aux douanes pour le développement du pays. Mais seulement, qu'est-ce qu'on fait des conseils qu'on donne? Qu'est-ce qu'on fait des solutions qu'on propose? C'est ça le vrai problème. Le tout très cher JR passe à la conscience politique qui voudrait que lorsqu'on gouverne, qu'on puisse d'abord tenir compte des recommandations qui ont été prises. Des deux, qu'on puisse mettre en place des moyens, idoines, des moyens appropriés pour n'est-ce pas faire respecter les propositions qui sont prises. Nous voulons tous que l'économie soit relevée. Les déclarations peuvent être faites, les recommandations du Parlement à d'autres services peuvent être faites, mais si ceux qui gouvernent n'ont pas la volonté, la moindre volonté d'exécuter, on en tournera toujours à rentrer cher JR.
Merci beaucoup Maître Omar d'avoir appelé et nous retenons que c'est vrai, ces avis, c'est à considérer que bon, ça rentre dans les cadres des avis obligatoires. Le gouvernement peut écouter, n'est pas exécuté. Voilà donc ce qui fait qu'aujourd'hui nous rejoignons les propos de tout à l'heure de Sylvain qui évoquait notamment l'attitude et les comportements de ceux qui gouvernent face à de tels avis. Merci beaucoup. Ingénieur Valérie, je crois que la ligne s'est améliorée avec peut-être... disons une diminution sensible de ces effets Larsen qui dérangeaient un peu notre communication. Ingénieur Valérie, vous êtes à nouveau avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour, JR. Bonjour à tous les auditeurs, à tous mes prédécesseurs qui sont bien intervenus. Je salue particulièrement Sylvain et Maître Omar. Vous savez, JR, c'est comme ce que j'ai toujours dit, nous devons éviter du boom. Nous devons éviter d'avoir des lois pour le plaisir, d'en avoir tel que Maître Omar vient de le dire. Le Conseil économique et social a été institué dans le but de donner des idées. On estime que c'est un groupe d'experts qui réfléchit dans tous les domaines de la vie
afin de faire voir au gouvernement, voilà que techniquement parlant, nous pouvons rentabiliser par tel ou tel ou tel ou tel ou tel, d'où vous pouvez suivre un peu nos avis pour rentabiliser. Alors, il n'y a pas une culture managériale qui consiste à recueillir ces avis et les mettre en pratique. Là, je crois que nous perdons le temps. Avant même que le Conseil économique nous parle, rentrons un peu plus loin. Nous savons que c'est grâce à l'agriculture que nous avons même construit la plupart des infrastructures que nous avons. Nous savons qu'il y a eu les objectifs du millénaire, les OMD, les ODD qui en ont parlé, les accords de Maputo qui avaient demandé que chaque État puisse au moins réserver 10% de son budget à l'agriculture. Il y a eu les 28 mesures du gouvernement récemment. Mais tout cela, ça dénote une certaine indifférence dans la classe dirigeante quant à prendre les idées à bras les corps, les matérialiser pour les résultats. On ne comprend pas, mais finalement, on paie des politiciens parce qu'ils font quel travail. Est-ce parce qu'ils produisent des travaux sur papier qu'ils signent? Est-ce parce qu'ils organisent des réunions avec des jetons de présence? Ou bien c'est parce que nous avons des résultats? Nous devons cultiver l'esprit des résultats. Et je suis même surpris que le Conseil économique et social ne puisse faire allusion qu'à l'agriculture. J'aurais préféré qu'il fasse allusion, qu'il parle de la diversification dans l'ensemble. Mais il y a beaucoup à faire. Il y a même le tourisme. On doit le faire. Il y a même, vous savez, vers les années 80, ces pays avaient exporté la main-d'œuvre dans l'enseignement. Il y a eu nos ressortissants de l'IPN qui étaient partis au Gabon. Ils sont rentrés ici et ils se sont achetés des parcelles et ils avaient acquis beaucoup de biens. Emmanuel Macron vient de faire voter la loi sur la réforme du travail. Donc, un travailleur qui travaille dans un autre État, ses cotisations sociales doivent rentrer dans son pays d'origine. Mais avec tout ce que nous avons comme université, un taux de chômage élevé, nous avons des facultés et des sections que certains pays d'Afrique n'ont même pas. On pouvait même exporter la main-d'œuvre. Allez, ces gens allaient travailler, ils allaient rapatrier de l'argent ici, et même les cotisations, tout cela c'est de l'argent. Mais on a tout négligé. Il y a l'absence de la volonté politique qui tourne autour de tout cela. Aujourd'hui, même pour rentabiliser, disons, donner de la valeur à la monnaie, mais avec tout cela, imaginez-vous un pays qui a 80% des terres arables, un pays dont 75 ou 80% de la population est rurale. Mais on arrive à mourir de faim, on n'arrive même pas à l'autosuffisance alimentaire. Ça signifie qu'il y a une négligence. Lorsque quelqu'un a des ressources, il a l'énergie, il a la main d'œuvre, mais il n'arrive pas à produire. Ce qu'on peut encore dire, il y a un désordre, puisque les terres sont arables. L'énergie, nous en avons. L'agriculture mécanisée, nous en avons parce qu'on a parlé de tracteurs et autres. Les hommes, la main d'œuvre est là. Les facultés d'agronomie, il y en a dans presque toutes les universités de la République. Et vous voyez un pays comme ça, dont les gens meurent de faim, ils n'arrivent même pas à manger jusqu'à leur faim, incapables d'atteindre l'autosatisfaction alimentaire. Moi, je crois qu'il y a une absence de la volonté politique. Parce que c'est de la valeur même de la monnaie que nous sommes en train de faire diminuer, puisque la monnaie a de la valeur sur quoi? Qu'est-ce qui fait la valeur d'une monnaie? C'est l'activité économique, la puissance même du pays, émetteur de la monnaie.
Voilà. Merci. Merci beaucoup, ingénieur Valérie. On va prendre Madame Joséphine qui est à Boston. Madame Joséphine, bonjour.
Bonjour, Radio Capilla. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole.
Quelle est votre contribution?
Quelle
est votre contribution, Madame Joséphine?
Ok, ma contribution aujourd'hui, je vais dire ceci. Le problème de le conseiller là qui a parlé de dégradation de la situation sociale économique. Moi, je vais ajouter la situation politique, parce que le social c'est l'homme, l'économie c'est l'argent, et la politique sont les lois qui régissent l'homme et l'argent. Donc, dans notre pays, le grand problème, c'est la politique. Les politiciens, le président aujourd'hui n'a pas des lois, n'applique pas sa politique pour diriger l'homme et l'argent qu'il a trouvé. Vous savez, au Congo, le Congo, c'est un pays béni. Il y a les minéraux là. Ils vendent les minéraux, on dit ça en anglais, raw material. Donc, ils vendent la terre et ils ont l'argent. Avec cet argent, ils n'arrivent pas
à créer des fermes. Ils n'arrivent pas à entretenir les routes ou bien à créer des routes. Quelqu'un avait dit que le Congo sans les chemins de fer, le Congo est nul. Mes chers amis, il n'y a pas le chemin de fer aujourd'hui, donc le Congo est nul. Nous pouvons tout dire. Les jours où vous allez voir le chemin de fer, qui a déjà été préparé, on a fait même des maps, il va partir de Lubumbashi comme dans le temps, de Lubumbashi jusqu'à Kisangani. Kisangani jusqu'à Ilebo. Si vous ne voyez pas le chemin de fer, là, donc le Congo est nul. Nous pouvons tout dire, nous pouvons tout faire, le Congo est nul. Nos lois et que nos lois de la politique doivent être appliquées. L'homme est là, l'argent est là, mais qu'est-ce qu'il ne voit pas? Dans la politique, là, on dit que un président doit rester 5 ans. Et puis s'il est voté encore 5 ans, donc 6 ans. Les 10 ans sont passés. Vous partez, vous laissez aux autres. Aux prochaines élections, il faut faire partir tout le monde parce qu'ils ont échoué. Il n'y a pas le chemin de fer. C'est nous qui n'avons pas le chemin de fer au Congo. Il faut le faire partir plus vite possible. Que les 5 ans, ils passent. On cherche quelqu'un qui va mettre le chemin de fer. Le chemin de fer, là, va prendre le minerai, va prendre même des histoires dans des villages pour amener dans des villes. Merci beaucoup, c'est ça qu'on apporte aujourd'hui.
Merci beaucoup, Madame Joséphine. On va prendre Franck qui est à Vienne, en Autriche. Bonjour, Franck.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les amis de Parole aux auditeurs.
Quel est votre avis, Franck?
Oui, merci beaucoup. Je dois d'abord faire mienne toutes les interventions de tous les amis qui ont tenu leurs avis en explicitant davantage sur l'avis de notre ami Sylvain et Maître Omar. Je crois que tout a été dit. Le développement de la politique intégrale de chaque pays est efficace quand il y a corrélation entre le dire et le faire, car il y a la transversalité sectorielle de la politique quand il y a volonté politique et quand les acteurs politiques arrivent à matérialiser tous ces aspects. Or, chez nous, nous nous rendons compte que faire de la politique se limite parfois à tenir des déclarations politiciennes à caractère publicitaire. Et à partir de tout ce que je viens de redécrire là, le plus grand problème chez nous au Congo n'est plus l'absence de réformes dans un secteur de vie déterminé, mais je trouve que c'est plus l'absence de la transversalité sectorielle de la politique intégrale qu'on doit mettre en place pour le bien de tous. Vous avez bien dit de repenser à la réforme de l'agriculture, mais dans un grand pays comme la RDC, si on doit seulement penser à l'agriculture, les gens peuvent produire, mais après avoir produit, ils doivent évacuer ces produits-là. Ils doivent les revendre. On doit les acheminer d'un point à l'autre. Avec quelle route? Avec quels moyens? Et il y a tout ça. Les gens doivent avoir un pouvoir d'achat qui leur permette de s'acheter ce qui est produit. Et quand on achète, l'acheteur est satisfait et le vendeur aussi est satisfait. Or, chez nous, la vie maintenant s'organise vraiment de manière... On ne sait même plus trouver des députés ou d'attributs. On est tombé plus bas. Et je crois que le problème pour le moment, le plus grand problème que nous avons, c'est de réinventer, de repenser l'intégralité même de la politique sociale. Donc, il faut repartir à zéro. Et nous devons nous donner du courage pour les faire savoir à ceux qui nous gouvernent que dans l'ensemble des politiques sectorielles, ils ont échoué. Ils ont échoué, et quand on leur dit qu'ils ont échoué, c'est pas que on est en train de leur manquer du respect, non, parce que nous sommes tombés plus bas.
Merci beaucoup,
et
Franck.
Pour réformer un secteur, il faut la transversalité des domaines.
Voilà, merci beaucoup d'avoir ajouté un élément à la transversalité du domaine. Je crois que ça pourrait donner le résultat. C'est ce qui a manqué. Donc, quand on se focalise sur un seul domaine, sans pour autant tenir compte des aspects transversaux, le résultat est toujours négatif dans bien des cas. Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé de Vienne. Maître Sonville, vous nous avez également rejoint à ce niveau du débat. Vous avez droit à 2 minutes aussi, comme vos prédécesseurs. Maître Sonville, vous avez la parole.
Merci, monsieur Gilles. Merci aussi à tous les auditeurs qui nous sont en train de nous suivre. Moi, je dirais ceci, comme l'a dit madame des États-Unis, le chemin de fer, c'est l'épine dorsale du développement. Mais pour votre gouvernement, M. JR, je vous dis que la SNCC totalise maintenant 32 jours sans pour autant avoir du carburant. Mais comment est-ce qu'on peut s'attendre à une amélioration du social, de la population, de l'économie, puisque le chemin de fer, c'est l'épine dorsale du développement. Au-delà de ça, le Congo, on n'a pas d'État en RDC. On a un système d'enrichissement individuel. À titre illustratif, ton président de parti politique te demande de te retirer du ministère du budget. Toi, tu dis non, je démissionne de l'UNC, je reste fidèle à M. Kabila. Et vous vous attachez à vos intérêts individuels. Or, c'est une plainte de l'UNC qui l'a posée parce qu'il n'y a pas eu d'élection.
Oui, mais ben, ce sujet, nous allons l'aborder demain. Alors, donc, en fait, c'est juste un petit recadrage. Donc, nous allons l'aborder demain. C'est un débat qui sera soumis à parole aux auditeurs. La situation qui prévaut tellement dans l'UNC. Voilà. Donc, si vous pouvez chuter pour la thématique d'aujourd'hui. Peut-être vous avez fait juste une corrélation.
Nous avons un très grand problème au niveau du Katanga. On a eu de la farine de maïs le prix a baissé jusqu'à 10 000 francs. Et nous connaissons ce sont des périodes. Rien n'est encore fait par les autorités du Katanga pour maintenir cette farine à ce prix-là. C'est-à-dire, lorsqu'on ferme la frontière de la Zambie, c'est une crise qui est devenue récurrente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté dans le chef de ceux-là qui nous dirige. On nous a parlé des villages agricoles. Où sont partis ces villages agricoles? C'est-à-dire que ce Congo, on doit les refaire, on doit les refondre à tous les niveaux. Vous comprenez un peu.
Merci.
Sans volonté, sans quoi, ça n'ira pas. Donc...
Merci beaucoup, Maître Sonville. Alors, on va terminer avec vous, Kassamba. Vous êtes à Bounia. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres... voilà, le combiné n'arrête pas de sonner, parce que tout le monde va intervenir par rapport à cette question sur les conseils économiques et sociaux de la RDC. Alors, Kassamba, vous avez droit également à 2 minutes, comme vos prédécesseurs. Quelle est votre contribution à ce niveau du débat? Après avoir écouté les uns et les autres, mais permettez-nous quand même de lire le message des BTAO, qui dit que partout dans le monde, le secteur agricole est le moteur du développement. Le secteur agricole est aussi transversal que vertical. Il permet de toucher à tous les autres secteurs. On ne peut se développer lorsque ces secteurs ne participent pas activement au budget de l'État. Je pense que le président du Conseil économique a totalement raison. Il faut une réelle volonté politique pour relancer ces secteurs salutaires. Et Claude dit qu'une institution budgétaire, budgétivore, aux actions sans impact, formule des recommandations à un gouvernement sans mandat, dépourvu de tout pouvoir d'action, c'est inopportun. Kassamba, vous avez la parole.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour tous les auditeurs de la radio Okapi. Moi, je ne prendrai même pas beaucoup de temps. Je vais seulement paraphraser monsieur Colbert, l'ancien ministre de Louis XIV. Faites-moi de la bonne politique et je vous ferai une bonne économie. Et je me suis déjà fait une idée que ce qui nous dirige aujourd'hui, il y a l'impression que le Congo n'est pas leur pays et ils viennent aller quelque part, ils sont seulement en transit. Puisque si j'aimais cette patrie, j'allais profiter de toutes les opportunités que la nature nous a données. Mais j'ai l'impression qu'ils se préparent peut-être de vont vivre au Brésil ou en Europe parce qu'ils ne se soucient de rien. Ils ont bouché leurs oreilles. Toutes les bonnes volontés, ça ne passe pas dans les oreilles. Moi, je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps, voilà.
Mais Kassamba, tout à l'heure, Omar parlait de... C'est un avis qui a été émis par un conseil économique, un avis qui est du reste consultatif, soit obligatoire, soit facultatif, soit également conforme. Mais là, nous sommes dans le cadre d'un avis obligatoire.
Oui, monsieur le journaliste, même la Constitution qui est notre Bible, n'est pas considéré. Comment se va considérer les avis de quelques Congolais? Les Congolais sont méprisés. Il faut qu'on se le dise.
Voilà, merci beaucoup Kassamba d'avoir appelé également et aussi avoir eu le souci de participer à cette émission. On termine par ce message de Maître Gervais qui trouve que la vie sociale ou la protection sociale est devenue un fléau majeur en RDC à mettre hors d'état de nuire. Les conditions de vie des Congolais laissent à désirer. Où en sommes-nous avec le recrutement des 1000 jeunes universitaires dans la fonction publique? L'article 36 de la Constitution est remis en cause. Voilà, merci à tous d'avoir participé à cet échange citoyen ici au pays et à l'étranger. On ne se quitte pas sans pour autant dire merci également à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Jean-Noël Mokonde était à la mise en onde et Pierrot et la Mégie et Nico Kalambay ont produit ces programmes supervisés par Martin Essebou Djangwe et coordonnés et présentés par J.R. Lungembo. C'était un réel plaisir de partager ces 57 minutes interactives avec vous. On se retrouve demain dans un autre débat.